L2 géant. Bienvenue sur L2 géant, le podcast de l'École des Lettres. Aujourd'hui, L2 géant reçoit Xavier Laurent Petit, auteur de l'École des Loisirs, pour un épisode consacré aux histoires naturelles. Bonjour Xavier Laurent Petit.
Bonjour Ingrid Merckx.
Xavier Laurent Petit, pouvez-vous décrire ce que l'on voit, éventuellement ce que l'on entend? Quel est l'endroit où nous nous trouvons?
Alors on se trouve devant une végétation luxuriante avec des arbres dont je ne connais pas le nom, avec des palmiers, avec des plantes qui ont des feuilles gigantesques et on est juste sous une cascade d'eau qui dégouline et tout ça c'est en plein Paris. C'est dans la grande serre du Jardin des Plantes, un endroit absolument magique. Je pense que c'est un des plus beaux endroits de Paris, au moins un des plus surprenants. On ne s'imaginerait pas au cœur de Paris quand on est là et qu'on se pense en pleine forêt, en fait.
Est-ce que vous avez l'habitude de venir dans cette grande serre et quelle importance revêt-elle pour vous?
Alors la grande serre, ça faisait déjà un an ou deux que j'y avais pas remis les pieds. Par contre, le muséum, j'y viens extrêmement fréquemment. D'abord parce que j'ai un de mes fils qui habite pas très très loin, donc c'est l'occasion quand je viens à Paris d'aller lui faire une petite bise. Puis surtout pour des raisons familiales et sentimentales, j'ai un arrière-grand-père, Edmond Perrier, qui a été directeur du muséum de 1900 à 1919, donc quasiment 20 ans. À la mort de mes parents, j'ai retrouvé des cartons de courrier qui venaient du muséum dans lesquels j'ai retrouvé des merveilles. J'ai retrouvé des lettres de Darwin, j'ai retrouvé des lettres de Marie Curie, de Pasteur, enfin voilà, de toute une quantité de scientifiques de l'époque. J'ai donc un petit trésor chez moi à la maison qui est en lien avec le muséum.
Et un petit compagnonnage.
Tout à fait, voilà. Mais un compagnonnage familial et en même temps... Je dirais presque le scientifique, parce que c'est, voilà, j'ai une grande admiration pour cet arrière-grand-père que je n'ai pas connu, mais qui a été un des précurseurs de ce qu'on appelle l'océanographie aujourd'hui. Il a participé à la création du laboratoire océanographique de Monaco. Il a travaillé sur un petit laboratoire océanographique qui est au large du Cotentin qui s'appelle l'île Tatiou. Enfin, voilà, il a été à la base de pas mal de choses, même si c'est quelqu'un dont on parle absolument plus aujourd'hui.
Alors, vous êtes venu à la Grande Serre avec un texte. Quel texte avez-vous choisi?
J'ai choisi le chapitre 6 de 20 000 lieues sous les mers. Pour resituer un petit peu les choses, le récit débute en 1866 aux États-Unis, au moment où des marins qui arrivent dans les ports américains racontent une drôle d'histoire. Ils racontent qu'ils auraient croisé en mer un monstre marin, un animal gigantesque, bien plus grand que toutes les baleines qu'ils ont pu croiser jusque-là, bien plus rapide également. Et qui plus est un animal qui la nuit devient phosphorescent, qui brille sous l'eau. Pendant quelques mois, personne ne sait s'il s'agit d'une rumeur, d'un canular, ou s'il y a un fond de vérité là-dedans. Et jusqu'au moment où un navire se fait harponner par cet animal, dont personne ne sait ce qu'il est. Et puis un second navire va se faire harponner, il va y avoir une voie d'eau importante, il va y avoir des naufrages. Le gouvernement américain décide d'envoyer l'un de ses meilleurs bateaux à la recherche de ce monstre marin dont on ne sait toujours pas ce qu'il est. Alors le bateau s'appelle l'Abraham Lincoln, on est en 1866, donc c'est juste après la guerre de sécession. Et à bord de ce bateau, on va retrouver trois personnages qui seront les protagonistes de toute la suite de l'histoire. C'est un harponneur qui s'appelle Ned Land, envoyé là pour tuer cet animal, entre guillemets. Un professeur, un scientifique français, le professeur Aronnax, qui vient du Muséum d'Histoire Naturelle, qui est à bord avec son serviteur qui s'appelle Conseil. Le texte que j'ai choisi, que j'ai un peu coupé parce que sinon il aurait été trop long, c'est le moment où l'Abraham Lincoln, le bateau, a aperçu cet animal mystérieux et le prend en chasse. L'Abraham Lincoln marchait à raison de 18 000 et 5 dixièmes à l'heure. Mais le maudit animal filait lui aussi avec une vitesse de 18 000 et 5 dixièmes. Pendant une heure encore, la frégate se maintint sous cette allure sans gagner une toise. C'était humiliant pour l'un des plus rapides marcheurs de la marine américaine. Une sourde colère courait parmi l'équipage. Les matelots injuriaient le monstre, qui d'ailleurs dédaignait de leur répondre. Le commandant Ferragut ne se contentait plus de se tordre la barbiche. Il la mordait. L'ingénieur fut encore une fois appelé. « Vous avez atteint votre maximum de pression ?» lui demanda le commandant. « Oui, monsieur, » répondit l'ingénieur. « Et vos soupapes sont chargées ?»« À 6,5 atmosphères. » Chargez-les à 10 atmosphères. La rapidité de l'Abraham Lincoln s'accrut. Ses mâts tremblaient jusque dans leurs ententures et les tourbillons de fumée pouvaient à peine trouver passage par les cheminées trop étroites. On jeta le loch une seconde fois. Eh bien, Timonier, demanda le commandant. 19 milles et 3 dixièmes, monsieur. Forcez les feux. L'ingénieur obéit, mais le cétacé chauffa lui aussi sans doute, car sans se gêner, il fila ses 19 nœuds, ses 19 milles et 3 dixièmes. Quelle poursuite! Je ne puis décrire l'émotion qui faisait vibrer tout mon être. Ned Land se tenait à son poste, le harpon à la main. Plusieurs fois, l'animal se laissa approcher. Puis, au moment où il se disposait à frapper, le cétacé se dérobait avec une rapidité que je ne puis estimer à moins de 30 milles à l'heure. À midi, nous n'étions pas plus avancés qu'à 8 heures du matin. Le commandant Ferragut se décida alors à employer des moyens plus directs. « Ah, dit-il, cet animal-là va plus vite que l'Abraham Lincoln. Eh bien, nous allons voir s'il distancera ses boulets. » Le canon fut immédiatement chargé et braqué. Un coup partit, mais le boulet passa à quelques pieds au-dessus du cétacé qui se tenait à un demi-mille. Un vieux canonnier à barbe grise, l'œil calme, la physionomie froide, s'approcha alors de la pièce, la mit en position et visa longtemps. Une forte détonation éclata, à laquelle se mêlèrent les hurrahs de l'équipage. Le boulet atteignit son but, il frappa l'animal, mais glissant sur la surface arrondie, alla se perdre à 2 milles en mer. « Ah ça !» dit le vieux canonnier, rageant. « Ce gueux-là est donc blindé avec des plaques de 6 pouces ?» Et la chasse recommença. Le commandant Ferragut, se penchant vers moi, me dit « Je poursuivrai l'animal jusqu'à ce que ma frégate éclate. » On pouvait espérer que l'animal s'épuiserait et qu'il ne serait pas indifférent à la fatigue comme une machine à vapeur. Mais il n'en fut rien. Les heures s'écoulèrent sans qu'il donnât aucun signe d'épuisement. Je n'estime pas à moins de 500 kilomètres la distance qu'il parcourut pendant cette malencontreuse journée du 6 novembre, mais la nuit vint et enveloppa de ses ombres l'océan houleux. À ce moment, je crus que notre expédition était terminée et que nous ne reverrions plus jamais le fantastique animal. Je me trompais. À 10h50 du soir, la clarté électrique réapparut à 3 milles au vent de la frégate, aussi pure et aussi intense que pendant la nuit dernière. Le narwal semblait immobile. Peut-être fatigué de sa journée, dormait-il en se laissant aller à l'ondulation des lames. Il y avait là une chance dont le commandant Ferragut résolut de profiter. Il donna ses ordres. L'Abraham Lincoln fut tenu sous petite vapeur et s'avança prudemment pour ne pas éveiller son adversaire. Il n'est pas rare de rencontrer en plein océan des baleines profondément endormies que l'on attaque alors avec succès. Et Ned Land en avait harponné plus d'une pendant son sommeil. Le Canadien alla reprendre son poste dans les sous-barbes du Beaupré. La frégate s'approcha sans bruit, stoppa à 2 encablures de l'animal et courut sur son nerf. On ne respirait plus à bord. Un silence profond régnait sur le pont. Nous n'étions pas à 100 pieds du foyer ardent dont l'éclat grandissait et éblouissait nos yeux. À ce moment, penché sur la lisse du gaillard d'avant, je voyais au-dessous de moi Ned Land accroché d'une main à la martingale, de l'autre brandissant son terrible harpon. 20 pieds à peine le séparaient de l'animal immobile. Tout à coup, son bras se détendit violemment et le harpon fut lancé. J'entendis le choc sonore de l'arme qui semblait avoir heurté un corps dur. La clarté électrique s'éteignit soudain et 2 énormes trombes d'eau s'abattirent sur le pont de la frégate, courant comme un torrent de l'avant à l'arrière, renversant les hommes, brisant les saisines des drômes. Un choc effroyable se produisit et, lancé par-dessus la lisse, sans avoir le temps de me retenir, je fus précipité à la mer.
Xavier Laurent Petit, est-ce que vous continuez à vous tordre la barbiche en écoutant ou en lisant ce texte ?
Non seulement je me tords la barbiche, mais en plus j'y prends un grand plaisir à la lecture de Jules Verne, qui est un auteur qui m'accompagne depuis très longtemps. Alors j'ai regardé l'exemplaire de 20 milieux sous les mers dans lequel j'ai tiré cet extrait, date de 66. À l'époque j'avais 10 ans. C'est un livre que j'ai conservé depuis. Puis je relis plus ou moins régulièrement du Jules Verne. Moi, je suis très admiratif de la capacité d'imagination de cet homme-là. C'était un bourreau de travail. C'était quelqu'un qui passait, je crois, toutes ses matinées à écrire et toutes les après-midi à se documenter à une époque où il n'y avait pas Internet, évidemment. Donc voilà. Et c'est quelqu'un qui a été en contact avec des tas de scientifiques qui cherchaient à avoir une écriture qui se partage. Et ça me touche beaucoup, entre la fiction d'une part, et puis un appui réel et fort sur la réalité, et essentiellement la réalité scientifique de son époque.
Est-ce que Jules Verne ou d'autres récits peut-être de grands explorateurs ont joué un rôle dans votre sensibilisation au sort de la planète, aux questions naturelles ?
Jules Verne ne s'intéressait pas tellement à la préservation de la planète. Lui, il a vécu une époque qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, c'était une époque où la science était une science heureuse. Aujourd'hui, c'est une science qui est un peu coupable et qu'on met sans arrêt en accusation. Et à l'époque, on était persuadé que le progrès tout court allait révolutionner et apporter le bonheur à l'humanité entière. Donc Jules Verne a apporté plutôt le côté voyage et ce côté appui scientifique que j'aime énormément. Après ça, les écrivains qui m'ont beaucoup marqué sont des gens, souvent des écrivains du voyage, des écrivains de la nature. Je pense à quelqu'un comme Nicolas Bouvier. L'usage du monde est un livre extraordinaire. C'est à la fois écrit de façon merveilleuse et en même temps c'est un appel à voyager de façon incroyable. Je pense à des auteurs américains comme Pete Fromm, qui lui aussi écrit des choses qui sont partagées entre la fiction et puis un appui fort sur le réel. Plus récemment, j'ai découvert une philosophe américaine qui s'appelle Kathleen Dinmore, qui a écrit un livre au titre un peu rebutant, ça s'appelle « Petit traité de philosophie naturelle ». Et en fait, quand on l'ouvre, il ne faut pas se laisser rebuter par le titre, quand on l'ouvre, en fait, ce sont des petites séquences très axées sur la nature, sur l'observation des végétaux, des animaux, du climat, etc. C'est enthousiasmant, c'est une réflexion sur le monde qui nous entoure, tel qu'on en trouve assez rarement, je pense, en Europe.
On dit beaucoup que les lecteurs, peut-être la société entière, a besoin de nouveaux récits. En cette époque de réchauffement climatique, de crise climatique, les jeunes lecteurs, notamment, parfois pris par l'éco-anxiété, est-ce que c'est pour répondre à ce besoin de nouveaux récits que vous avez pensé, imaginé, vos histoires naturelles ?
Enfin, moi, il y a une chose qui nous frappe. Voilà, on est de plus en plus urbain, on est de plus en plus derrière des écrans et on est de moins en moins confronté à la nature dont on fait partie. Il y a une chose, par exemple, qui a complètement disparu dans les écoles. Alors moi, j'ai des petits-enfants qui sont à l'école, donc je vois bien, c'est quelque chose qu'ils font absolument pas. C'est ce qu'on appelait l'observation. Je crois même qu'il y avait quelque chose qui s'appelait les sciences d'observation. Regarder, tout simplement, autour de soi, essayer de se poser des questions à partir de ce qu'on regarde, essayer de le décrire, essayer de dessiner, essayer de comprendre pourquoi, comment un insecte qui a 6 pattes peut marcher avec ses 6 pattes, comment un araignée qui en a 8 peut arriver à marcher avec ses 8 pattes. Tout simplement regarder une fleur avec une loupe et se perdre dans ce monde-là, voilà, et se rendre compte qu'on en fait partie. C'est quelque chose qui est un peu disparu, ça. Et moi, j'aimerais que cette série des histoires naturelles soit une ouverture à la curiosité. Je parle de la disparition des loups de Tasmanie, je parle d'un ouragan en Louisiane, mais j'aimerais que ce soit l'occasion d'aller fouiller un petit peu plus loin, peut-être sur Internet aussi, s'il le faut, mais essayer de comprendre un peu plus ces mécanismes naturels qui nous entourent, qui se dérèglent à cause de l'impact humain et savoir comment tout ça fonctionne pour essayer de mieux le comprendre.
Alors vous utilisez le terme d'histoire naturelle au pluriel. On connaît souvent le terme d'histoire naturelle au singulier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre ce terme au pluriel ou plutôt ces deux termes au pluriel et quel sens vous leur donnez ? Vous y retrouvez peut-être ?
Il y a 3 raisons pour les avoir mis au pluriel. L'histoire naturelle, c'est d'abord, je crois, un récit. Je suis très admiratif du travail que font ces gens qu'on appelle les vulgarisateurs. Alors c'est un mot qui n'est pas très joli, mais qui recouvre quelque chose d'extraordinaire. Des gens comme Hubert Reeves en astrophysique, des gens comme Pascal Pic en anthropologie, ou comme Stéphane Jégould sur l'évolution. Voilà, ce sont des gens qui sont capables de faire passer des choses très compliquées, de façon simple, mais jamais simpliste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui nous aident à comprendre le monde qui nous entoure, qui le racontent, qui en font un récit. C'est une histoire qu'ils nous racontent et dans laquelle on rentre avec plaisir parce qu'on arrive à piger ce qui nous entoure. La seconde chose, je crois que c'est également une histoire au sens historique et chronologique du terme, c'est-à-dire que la vie sur Terre, elle est apparue il y a en gros 3,5 milliards d'années et depuis, elle n'a cessé d'évoluer, de se complexifier, de s'adapter à tous les milieux, y compris les plus extrêmes. L'histoire naturelle raconte cette histoire, cette progression au fil des millénaires et des millions d'années, plutôt que des millénaires d'ailleurs, jusqu'à notre époque d'aujourd'hui, qui ne termine pas les choses. Et souvent on a cette sensation-là. L'évolution continue, le monde et la nature continuent à se modifier, à échanger, à devenir autre qu'il n'était, et sous nos yeux. Alors c'est des tout petits phénomènes dont on ne s'aperçoit pas, sauf qu'en ce moment, avec ces histoires de changement climatique, c'est un phénomène qui a été amplifié par la présence humaine. Et puis il y a une 3e raison, c'est tout simplement que cette observation de la nature, j'essaie de la mettre en fiction, c'est-à-dire j'essaie de raconter une histoire, de créer une fiction autour de ces phénomènes qui m'intéressent.
Justement, ces phénomènes, comment est-ce que vous les choisissez ? Est-ce que vous parliez des loups de Tasmanie, mais la réapparition d'un mammouth, sortie de la glace, surgie de la glace en Sibérie ou bien l'ouragan Katrina. Comment est-ce que vous les choisissez? Vous les choisissez dans les journaux? J'ai cru comprendre que vous étiez grand lecteur de journaux. Et surtout, quelles recherches vous faites ensuite sur ces événements pour mieux les connaître?
C'est vrai que j'utilise beaucoup les journaux. Alors moi, j'ai un journal que j'adore depuis des années. Je suis abonné à la fois à la version papier et à la version internet. C'est le Courrier International. On trouve dans le Courrier International des articles écrits par des journalistes du monde entier, sauf des journalistes français. Donc on a un coup d'œil du monde extérieur sur à la fois les grands événements internationaux, mais aussi assez souvent sur les événements français. Et ça, c'est toujours très passionnant. Et j'ai trouvé des quantités d'idées, de romans, de récits, de fictions dans les pages du Courrier International que je dévore absolument chaque semaine. Mais il n'y a pas uniquement les journaux. Par exemple, les Loups du Clair de Lune qui se passent en Tasmanie. Bon, c'est un voyage que j'ai fait là-bas. Voilà, j'ai découvert l'Australie il y a quelques années avec un émerveillement incroyable puisque je découvrais entre autres une nature qui avait une dimension tout autre que la nature que l'on peut découvrir en France ou même en Europe. Des dimensions extraordinaires. Des paysages antiques sont vides d'humains et dans lesquels on a une impression de solitude et parfois même d'inquiétude extraordinaire que j'avais rencontré ça nulle part ailleurs en fait. Puis parfois il y a des hasards qui font bien les choses. Mission Mammouth, donc l'histoire de la découverte de ce mammouth dans les boues glacées de Sibérie en 1902. C'est tout simplement en flânant chez un bouquiniste où je suis tombé sur la traduction qui avait été faite en 1939 d'un livre écrit par l'un des découvreurs du mammouth en 1903 ou 4 ou quelque chose comme ça. À chaque fois, je complète beaucoup par des recherches à la fois sur Internet, sur les journaux énormément, dans les magazines. Je suis un gros lecteur de magazines aussi. Enfin voilà, j'essaie de multiplier mes sources et de les recroiser.
Vous parliez d'émerveillement. Est-ce que vous vous souvenez, vous, d'un récit? Vous évoquiez Jules Verne tout à l'heure, mais est-ce que vous vous souvenez d'un récit qui aurait provoqué une sorte d'éveil à la nature? J'ai entendu dire que quand vous étiez enfant, vous montiez dans un marronnier vous réfugier pour lire.
C'est vrai, mes parents habitaient en banlieue, il y avait un jardin, il y avait un grand marronnier. Alors j'ai le souvenir, vrai ou faux, parce que quand on vieillit, on a un petit peu tendance à améliorer ses souvenirs, je crois. Voilà, j'ai le souvenir d'avoir passé des heures sur ce marronnier avec d'un côté une plaquette de chocolat et de l'autre côté un bouquin à dévorer. Alors, il y avait Jules Verne, il y avait un autre Verne que j'ai tenté de relire et puis ça marche plus, quoi. La magie n'opère plus, j'ai oublié son prénom, c'est le Verne qui est l'auteur de Bob Moran. Jules Verne, il n'y a pas de S à la fin et celui-ci, il y a un S à la fin. Je lisais beaucoup des Bob Moran, d'autant que mon père trouvait que c'était pas des bons bouquins, donc je les lisais un petit peu en cachette. Voilà. Donc j'ai ces souvenirs de lecture très solitaire dans cet arbre, un petit peu à l'abri des autres, au-dessus du monde en fait.
Est-ce que vous avez été vous-même témoin d'un événement naturel, d'une histoire fantastique? J'ai également entendu dire que vous aviez un jour découvert sur une plage, je crois que c'était quand vous étiez enfant, un cadavre de baleine.
Je ne l'ai pas découvert parce que j'étais pas le premier sur le coup, mais on était très peu, c'était très tôt le matin, c'était en Bretagne. Et j'étais pas enfant, j'étais adulte, j'avais 20-25 ans. Un matin, on s'était réveillé très tôt, je ne sais plus pourquoi. Puis il y avait une lumière grisée comme ça, c'était vers la Toussaint, une très belle lumière. Puis au bout de la plage, il y avait une masse énorme, inerte, et on savait parfaitement qu'il n'y avait pas de rocher sur cette plage. Et en s'approchant, on a réalisé que c'était une baleine qui s'était échouée là pendant la nuit, qu'on n'était pas les premiers, mais il y avait très peu de gens. On est revenu dans l'après-midi et là, c'était assez saisissant parce qu'il y avait au contraire une foule incroyable. Il y avait des policiers qui empêchaient les gens d'approcher trop près, mais cette baleine morte avait attiré une foule gigantesque. À la fois, je pense, par curiosité, il y avait un côté un peu morbide. Je me souviens qu'il y avait des gens qui avaient essayé de découper des petits bouts de peau de baleine. Enfin, c'était quelque chose d'assez étrange, une espèce de cérémonie initiatique, en fait, je crois. Voilà. J'ai quelques photos de cette baleine et c'est un événement qui m'a beaucoup marqué, effectivement.
Cette rencontre avec le sauvage, même si c'est un sauvage mort, vous renvoyez aussi à votre mammouth sorti des boues glacées, finalement. C'était un peu votre mammouth à vous. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été fondateur?
Fondateur, je ne sais pas, mais ça a été déclencheur, je pense, d'une certaine sensibilité à la puissance animale. C'est-à-dire, voilà, des baleines, on en voit. Ce n'est pas un animal qu'on pense très fréquemment. Et quand on est debout face à une telle masse, on a une sensation de puissance qui est extraordinaire. Et c'est une puissance que j'aime bien retrouver quand je me balade en pleine nature. Pas plus tard qu'hier, j'étais en Haute-Marne, dans un parc somptueux, et il y avait un platane dont le diamètre était de 5,80 m, quoi. Donc on imagine l'arbre que ça fait. Moi, je suis très admiratif de cette espèce de puissance naturelle qui part de rien, quoi. Le platane, il est né d'une graine au démarrage. Il devient cette espèce de géant. La baleine, c'était la même chose. Le mammouth, c'était la même chose. Dans le Jura, on voit aussi des endroits où on retrouve des empreintes fossiles de traces de dinosaures. Quand on compare notre propre taille à l'empreinte de ses pattes, mais c'est à la fois terrifiant et exaltant. Ce genre de rencontre, entre guillemets, parce que rencontrer des empreintes fossiles, c'est pas une véritable rencontre. Ça me donne envie de raconter ce genre de choses.
Pourquoi est-ce que c'est important de raconter ? Vous utilisez le mot puissance. On se sent souvent très impuissant face à des phénomènes naturels, face à des catastrophes naturelles. Je pense à votre personnage de la Nouvelle-Orléans qui subit l'ouragan Katrina. Même si c'est très impressionnant de découvrir un cadavre de mammouth, quand on subit un ouragan, on se sent, j'imagine, très impuissant. En fait, vos personnages sont très actifs face à ces événements. Est-ce que d'écrire des personnages comme ça qui sont dans l'action, ça renforce l'idée que peut-être on n'est pas complètement impuissant, qu'on n'est pas uniquement en train de subir?
Moi, je crois que ça renforce l'idée que l'on fait partie de ce mouvement. On n'est pas pendant, en gros, depuis, on pourrait pas dater depuis plusieurs siècles. Au démarrage, c'est religieux. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette idée que l'homme était au-dessus de la nature, devait la dominer. C'est dans la Bible. Il y a cette idée de toute puissance humaine par rapport à la nature. Des événements comme l'ouragan Katrina dont je parle dans Un temps de chien, ou comme ce qui s'est passé au cours de l'été, ces incendies gigantesques qui ont eu lieu, cette vague de chaleur incroyable au Canada, le fait qu'il ait plu pour la première fois depuis quelques observations météorologiques au pôle Nord. Il a plu au pôle Nord, ce qui est une affaire de fou. Tous ces événements-là montrent que l'on est inclus là-dedans. On n'est pas au-dessus, on n'est pas à côté, on est en plein dedans et on est finalement décideur de très peu de choses, même si on a été déclencheur d'un phénomène qu'on n'arrivera pas à enrayer. Et donc je crois que l'activité de mes personnages, elle est plutôt là. Ils sont dans ce grand courant de la puissance de la nature qui les entraîne avec eux. Ils sont obligés d'agir. Et on ne leur demande pas leur avis, en fait. Ils sont obligés de faire quelque chose.
Vous, votre agir, c'est de raconter des histoires. Est-ce que écrire des histoires, est-ce que publier des livres sur des histoires naturelles, ça vous donne un petit peu le sentiment de lutter contre des catastrophes ou contre la crise climatique peut-être? Est-ce que ça calme parfois aussi certaines inquiétudes?
Je pense pas que mes livres puissent modifier quoi que ce soit au comportement des gens qui les lisent. Par contre, je crois vraiment que ça peut être une ouverture pour eux. C'est-à-dire que c'est pas une découverte. On aime entendre des histoires, on aime entendre raconter des histoires, on aime les lire, on aime les voir au théâtre, au cinéma, etc. Et je crois que le fait de passer par un roman pour raconter ces histoires naturelles, j'aimerais que ce soit un déclencheur auprès de celles et ceux qui vont me lire, que ce soit une façon d'ouvrir les yeux, une façon de d'aiguiser sa curiosité. Voilà, j'aimerais que ces livres soient un petit peu considérés comme un cabinet de curiosité, l'envie de découvrir le monde qui nous entoure au travers de tout un tas de petits flashs comme ça à apporter sur des situations face auxquelles on est plus ou moins incapable de réagir, mais auxquelles on est obligé de participer.
Merci beaucoup Xavier Laurent Petit. À bientôt sur L2 Géant peut-être.
Merci.
L2 Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est éditée par l'École des Loisirs. La musique au générique est tirée de My Mingus Soul, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chen. À bientôt pour un prochain épisode sur L2 Géant.